Bienvenue dans cette seconde partie d'Okapi Service. Comment bien se préparer pour un test de recrutement? Nous en parlons avec le professeur David Pata. Il est expert en organisation du travail et management des compétences et directeur général de Rassiwa. Bonjour professeur.
Bonjour.
Bonne année. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6094. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. N'hésitez pas également à nous envoyer vos commentaires dans les courriels service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Priscille Kabouyette à la réalisation et Dédoné Nyangassa s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Okapi Service, les magazines de faits des sociétés de Radio Okapi. Dans le cadre d'un processus de recrutement, les candidats demandeurs d'emploi peuvent être amenés à passer des interviews, des tests écrits, les tests de personnalité et les tests de raisonnement. Certains candidats qui n'ont jamais été confrontés à ce genre de tests ont tendance à paniquer et cela a des conséquences sur leur cotation. Comment bien se préparer pour un test d'embauche? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service avec le professeur David Pata. Nous rappelons qu'il est expert en organisation du travail et management des compétences et directeur général de Rassiwa. Professeur, commençons par la définition de concept test de recrutement. Qu'est-ce qu'on entend par test de recrutement?
Les tests de recrutement ou test d'embauche est une épreuve standardisée qui permet de mettre en valeur les connaissances, les compétences et les aptitudes dont disposent les candidats en fonction de poste. Ces tests remplissent généralement des critères universels psychométriques, notamment la fiabilité, la validité, la consistance interne. C'est-à-dire il y a des outils statistiques et psychométriques qui sont utilisés pour mesurer la qualité d'un test. Il ne faut pas confondre un test avec un examen. Un examen permet généralement d'évaluer les connaissances qui ont été déjà assurées ou des connaissances générales.
Dispensées par un enseignant
et souvent peut donner lieu à plusieurs notes, c'est-à-dire plusieurs résultats contestables. Alors que les tests sont des épreuves standardisées qui remplissent certains critères rigoureux et qui peuvent être soumis à plusieurs types de personnes sans tenir compte de barrières linguistiques, culturelles, etc.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes étapes d'un test d'embauche?
Ok. D'abord, un test, pour qu'il soit disponible, il doit d'abord être conçu. Avant sa conception, on doit passer par ce qu'on appelle l'étude de facteurs exploratoires. C'est-à-dire que le chercheur doit d'abord faire l'analyse des profils du poste pour dégager quelles sont les dimensions mesurables. Ces dimensions s'étalent sous 3 orientations. Ce que vous appelez les savoirs. Donc, vous avez les aptitudes, qu'on qualifie généralement les savoir-être. Dans les aptitudes, vous avez également les traits de personnalité. Et puis, vous avez les connaissances, ce qu'on appelle savoir tout court. Les connaissances peuvent être les connaissances techniques ou les connaissances générales. Et vous avez ce qu'on parlait de savoir-faire, c'est-à-dire les compétences. Et là aussi, vous avez les compétences liées au métier, vous avez les compétences d'ordre général, etc. Donc, un test doit couvrir en principe les 3 grands aspects, hein, les aptitudes, les connaissances, les compétences. Mais le choix d'une ou de l'autre composante dépend généralement de la nature du test. Exemple, si je vais recruter les jeunes gens qui n'ont pas encore travaillé, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de l'expérience, pour qu'ils puissent intégrer le milieu professionnel, il n'est pas recommandé d'utiliser les tests et les compétences parce qu'ils n'ont pas de compétences spécifiques dans le métier, parce que les compétences sont le résultat de l'expérience. Par conséquent, ces jeunes gens disposent des potentialités, c'est-à-dire des aptitudes, et ils disposent des connaissances. Donc, dans ces cas-là, ce sont les tests des aptitudes et les tests des connaissances qui sont mieux indiqués. Mmh. Généralement, les tests des aptitudes sont généralement appelés les psychotechniques. Ce sont des tests très puissants pour recruter des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience pour intégrer dans le milieu professionnel. Mais si vous voulez recruter, n'est-ce pas, des gens qui ont déjà...
Vous parlez, professeur, quand vous parlez des tests psychotechniques, ils reposent sur quoi?
Les tests psychotechniques reposent sur un ensemble d'aptitudes. Les aptitudes sont des potentialités innées qui sont intégrées comme des microprocesseurs que Dieu a intégrés dans l'être humain. Dans la Bible, vous les appelez des talents. Mmh. Alors, il existe une liste des psychologues depuis 1930 avec Feston, plusieurs autres auteurs, Olcott, etc. Spearman. Ils ont révélé que l'être humain disposait plusieurs types d'aptitudes. Vous avez par exemple les aptitudes verbales. Vous avez les gens qui sont très forts dans le parler.
Dans l'art oratoire.
Dans l'art oratoire. Mmh. Vous avez les gens qui ont la facilité d'écrire. Vous avez aussi les gens qui se sentent très à l'aise dans le maniement des chiffres. Vous avez des gens qui ont la facilité dans tout ce qui est spatial, dans les formes géométriques, etc. Donc, il y en a plusieurs.
Oui.
En dehors des aptitudes intellectuelles, à côté, vous avez aussi des aptitudes physiques. Vous avez des gens qui disposent d'une force extraordinaire. C'est ce qu'on a dit en lingala, Hassan Nkuma. Donc, il a la force.
Il a de l'énergie.
Il a de l'énergie. Et vous avez également des gens qui ont une certaine résistance, n'est-ce pas, la chaleur, le froid, etc. Tous ces dispositifs ou des aptitudes dépendent d'un métier à un autre. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une chambre froide, si vous voulez recruter les gens qui vont aller travailler dans les chambres froides, pas dans les postes administratifs, mais vraiment au froid, il faut recruter des gens qui ont une certaine carrure physique imposante. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont une aptitude physique très
de résister contre le froid. Là.
Si vous voulez recruter, par exemple, des jeunes gens qui vont aller apprendre le métier spatial, là, il faut insister sur des aptitudes spatiales, géométriques,
la géométrie,
etc. Vous voyez? Donc, il y a la plusieurs dont nous ne pouvons pas étaler toutes ces aptitudes-là. Et donc, c'est ça, en fait. Et les tests psychotechniques ont l'avantage d'être universels. Parce que ce sont des tests qui remplissent toutes ces conditions que j'ai dit, des critères rigoureux, notamment la validité, la fiabilité, la consistance interne. Parce qu'un test doit, lorsqu'il est composé, inventorier un ensemble de compétences ou d'aptitudes, mais ces aptitudes doivent avoir une sorte de corrélation et d'intercorrélation entre elles. C'est ce qu'on parlait de la consistance interne. Et les tests doivent mesurer ce qui est censé mesurer. Ça, c'est la dimension de la validité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un test qui est censé mesurer les aptitudes pour mesurer les traits de personnalité. Ça ne marche pas. Là, dans ces cas, on dit les tests n'est pas valide. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un examen.
Mmh. Ouais, nous allons retourner sur le vif de notre sujet. Ces différentes démonstrations concernaient surtout l'équipe de recrutement. Je suis candidat, j'ai déposé une demande d'emploi suite à un avis de vacance de poste qui a été publié. On me convoque pour les tests. Comment je dois me présenter? Comment faire pour passer avec succès les différentes épreuves qui me seront soumises?
Ok, si l'entreprise qui lance, qui pilote le processus est expérimentée, l'entreprise prend soin d'informer au candidat les différents aspects sur lesquels porterait l'évaluation de l'entreprise. L'entreprise peut dire, voilà, nous allons évaluer tes aptitudes. L'entreprise peut le dire, peut donner des orientations. Tout ceci, c'est pour permettre aux gens de se préparer et psychologiquement et matériellement. Alors, mais du côté du candidat, il doit premièrement prendre soin de maîtriser les contours du job description. Et c'est ainsi que quand vous postulez, vous devez
lire
forcément
et relire l'avis de vacances des postes,
lire
les conditions, les profils.
Imprimer, voire même garder. Et il faut les consommer à fond. Consommer à fond, c'est-à-dire il faut l'exploiter de manière maximale.
Dans les moindres détails.
Dans les moindres détails. Il faut relever les aspects importants. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans, par exemple, si on vous soumet un assessment center, des tests de mise en situation, on va vous placer devant, n'est-ce pas, la situation que vous êtes titulaire de ces postes-là. Dites-nous quelles sont les tâches, quelles sont les responsabilités que vous allez démontrer, n'est-ce pas, que vous allez faire. Donc, c'est qui suppose que vous devez avoir, n'est-ce pas, une image réfléchie des job descriptions. Mais aussi, il faut le lire et également effectuer quelques recherches. Allez sur Internet, tapez le même poste. Il faut recueillir certaines informations similaires pour avoir une nette compréhension du poste. De deux, c'est que vous pouvez vous permettre de chercher aussi certains tests qui sont similaires. Par exemple, si on vous a dit que vous allez passer des tests psychotechniques, ne vous gênez pas d'aller sur Google, taper tests psychotechniques. Si vous connaissez un psychologue du travail, ne vous gênez pas d'aller les consulter parce qu'ils en disposent, ce sont les experts, n'est-ce pas, Didier, dans les domaines. Ou vous pouvez également aller voir nos amis qui ont fait l'orientation scolaire et professionnelle à l'IPN. Ils peuvent vous assister parce qu'ils ont une bonne maîtrise et connaissance, n'est-ce pas, de tests psychotechniques. Vous allez vous exercer. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les gens qui ont eu à s'exercer, par exemple, à faire des exercices à plusieurs reprises des tests psychotechniques, arrivent à acquérir une certaine vitesse de réflexion mentale. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur les tests psychotechniques, si on lui soumet pour la première fois,
il risque de paniquer et de paniquer, tout gâcher.
Et de tout gâcher. Ça, c'est la deuxième dimension, donc s'exercer. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, il faut se préparer psychologiquement. Un test, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous cherchez un emploi, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et il y a toujours des opportunités. Ça dit, il faut être calme. Quand vous allez passer les tests, il faut avoir les deux pieds posés sur la terre. Il faut avoir la maîtrise de soi et affronter les questions, n'est-ce pas, lorsqu'on vous les présente. Vous réalisez et vous affrontez les questions les plus faciles de manière progressive jusqu'à aller aux questions les plus complexes.
Plus difficiles.
Ça dit, vous allez d'abord éplucher toutes les questions faciles. Ensuite, vous remontez sur les questions moyennement difficiles. Vous allez les éplucher. Et également vers les questions difficiles. Parce que généralement, par exemple, si nous prenons les cas des psychotechniques, il est difficile ou voire impossible de régler toutes les questions. Parce que les questions sont faites de manière séquentielle de telle sorte que un candidat doit être retenu à un certain niveau. Donc,
il faut qu'il y ait ceux-là qui vont tomber dans les parcours.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mélange.
Les pièges.
On mélange. Parce que les questions, ou soit ça peut être présenté sous forme d'un entonnoir, c'est-à-dire on commence par les questions le plus difficiles pour aller aux questions le plus facile, comme ça on vous décourage dès l'entrée du jeu. Ou on commence par les questions le plus facile pour aller progressivement vers les questions. Mais généralement, en psychotechnique, on conseille de mélanger. Donc, vous aurez une question difficile, facile, ainsi de suite. Mais quand vous allez passer, laissez les questions les plus difficiles et vous allez revenir vers les questions les moins difficiles et progresser jusqu'à ce que, quand l'heure va sonner, et donc vous allez tout terminer. Et puis aussi, les tests, par exemple, psychotechniques, ont été préparés pour justement sommer psychologiquement les individus.
Et c'est pour titiller la psychologie.
Justement.
Voilà.
Parce qu'en réalité, ces tests sont fondés sur des principes élémentaires. Exemple, on vous dit, multiplier un nombre par, exemple, je dis 0,5. Mais 0,5 ou 0,2. Ou multiplié par 1 divisé par 2. Ou 0,5. Mais 0,5 signifie quoi? Signifie ces nombres-là divisé par 2.
Par 2.
N'est-ce pas?
Oui.
Donc, fond de principe. Il suffisait simplement de déceler un principe pour, comme j'ai dit, injecter dans le système. Et vous verrez, les réponses vont commencer à sortir d'elles-mêmes. Donc, c'est comme ça, effectivement, qu'il faut réfléchir. Donc, il faut se préparer. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut effectuer des recherches. N'hésitez pas de demander aux gens qui occupent déjà les postes de vous expliquer les contours des postes, etc. Donc, il faut également, il faut vraiment faire la vraie recherche.
Nous allons revenir à vous, professeur. Le temps pour nous d'aller au standard, donner la parole aux auditeurs. Comment se préparer pour un test de recrutement? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Par SMS, vos questions sont bienvenues au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Okapi danse. Radio Capi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Monsieur Charles Kisimba, vous êtes le premier auditeur à intervenir dans cette deuxième partie de Capi Service. À vous la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre sur le test d'embauche?
D'abord, je vous remercie, monsieur Tati, et ensemble avec toute votre équipe, parce que vous nous surprenez avec les bons choix de vos
vraiment. Merci beaucoup, c'est encourageant, merci.
Moi, je constate que d'une chose à une autre, et on est obligé toujours d'appeler vraiment pour les bons choix. Et Dieu vous bénisse vraiment de ma part.
Merci, on est flatté. Merci.
Oui, mais monsieur l'invité, il y a quelques experts locaux ici à Lubumbashi qui disent aux jeunes gens que avant un texte d'embauche, il faut en prendre d'abord une goutte d'alcool, une petite quantité d'alcool, pour surmonter toutes les épreuves possibles. Ah,
pour chasser la frousse.
Oui. Et est-ce que vous, ensemble avec Asiwa, un tel conseil vraiment peut passer? Sinon, c'est devenu fréquent ici à Lubumbashi, on conseille aux jeunes gens comme ça, pour ne pas tomber dans des paniques, par exemple, il faut prendre nécessité un petit verre d'alcool, que l'on ne puisse pas se faire remarquer. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, monsieur l'invité, est-ce que on peut refuser de recruter quelqu'un ou bien de se séparer à l'amiable avec quelqu'un à cause d'une simple tonalité? Par exemple, moi qui vous parle, je suis un directeur des études dans une école ici à Lubumbashi. J'ai perdu mon enseignant d'anglais parce que, je m'excuse vraiment, il venait fraîchement de Kananga avec une tonalité là de Kasai. Et mon préfet m'a dit que pourquoi tu avais recruté et pourquoi tu continues à garder un tel professeur de langue, mais avec une telle tonalité. Moi, je lui ai répondu que, en tout cas, c'est un génie. Il a un savoir-faire. C'est quelqu'un qui peut même amener quelque chose au sein de notre entreprise. J'ai été grondé en disant que non, tel n'est pas le cas. Nous visons aussi la meilleure tonalité de la ville. Et on m'a été, j'étais intimidé vraiment de chercher les motifs pour se séparer avec cet enseignant-là. Est-ce que la simple tonalité, on est né avec la meilleure tonalité, ou bien c'est au fur et à mesure nous avançons, nous allons tous adopter une bonne tonalité, ou bien ça se fait comment vous-même qui êtes expert? C'est un cas-là que j'ai vécu au courant de 2022 finissant ici. En tout cas, ça me fait du mal et je ne cesse d'appeler mon enseignant-là, vu son savoir-faire, vu tout ce qu'il avait, son déterminisme, sa façon vraiment même d'enseigner, mais à cause d'une simple tonalité vraiment, malgré mes interventions, j'avais failli vraiment, même moi, perdre aussi mon poste. On m'avait intimidé pour mettre à l'extérieur cet enseignant-là. Voilà un peu mes deux petites questions. Bonne journée, messieurs les journalistes.
Des questions très pertinentes, monsieur Charles. L'invité aura le temps d'y répondre à vos préoccupations. Cette fois-ci, nous allons à Kasumbalesa pour donner la parole à Baudouin. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
À vous la parole. À vous la parole, allez-y.
Oui, merci vraiment pour la thématique du jour. Hein. En tout cas, le sujet est très pertinent. Je me rappelle en 2005 ou 2006, je pense, j'avais participé à un test là à l'ESNEL, hein, à Lubumbashi. Il y avait une catégorisation là de questions, c'est parmi lesquelles il y avait les questions relatives à la vision, donc la souplesse de la vision, les questions aussi relatives au calcul, au simple calcul qu'on venait de le dire l'invité. Donc il y avait plusieurs catégories là de questions, hein. Oui. Ben, je ne savais pas comment les catégoriser. Alors, je voudrais en profiter avec l'invité pour nous aider un peu à catégoriser les différentes questions constituant les tests, pourvu que les autres là qui vont peut-être se présenter pour le test prochainement, qu'ils puissent avoir un peu une idée. Je voudrais quand même intervenir par rapport à l'intervention de notre ami qui venait d'intervenir là il n'y a pas longtemps. Surtout dans le milieu scolaire. Là, l'invité peut quand même nous aider hein, dans ce sens. En tout cas, c'est très pertinente l'intervention de M. Charles, je pense. À l'école primaire, surtout. Moi, j'ai constaté que les enfants de l'école primaire, surtout de la première année primaire, imitent complètement et totalement ce que font leurs enseignants. Par exemple, l'écriture, le test d'écriture ici est facteur de plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour l'écriture d'un enfant, surtout à l'école primaire. C'est-à-dire quoi? Je veux dire quoi? Par exemple, on avait un enseignant à l'école primaire. Fallait-il tenir compte de son écriture, par exemple, parce que l'enfant ne voit et ne recopie que ce que son enseignant fait. Et si un enseignant, par exemple, ne parvenait pas à écrire convenablement, quand il s'agit de tests d'écriture, par exemple, quelqu'un dans l'enseignement, là je parle bien de l'enseignement, surtout primaire au niveau de l'école primaire, quelqu'un qui est intelligent, qui s'adapte dans tous les tests possibles, mais arrivé au test d'écriture, on se rend compte que son écriture n'est pas du tout bonne. Est-ce qu'on peut le recruter, on peut le prendre celui-là dans cette entreprise? Ça c'est un autre point. Et l'autre, c'est par rapport à la tonalité qu'on venait de le dire, Monsieur Charles qui venait d'intervenir ici. Mmh. Je me rappelle ici localement dans une école où il y avait quelqu'un qui était là qui me faisait rire. Hein. Et il y a une école où je ne veux pas citer les noms. Les gens avaient une tonalité là où le N ne se faisait pas entendre. Par exemple, pigeon. Au lieu de dire pigeon, on dit pigeon. Bon, cette façon-là de parler là. Ça peut avoir toujours une réflexion sur les enfants. L'enfant qui reste à la maison, qui dit non, je suis un peu plus de pigeon. Non, c'est pigeon, c'est pas pigeon. Donc, ce genre de problème-là. En tout cas, que l'invité puisse nous aider dans ce sens-là pour que nous puissions quand même savoir comment bien faire ce genre de test. Encore un autre point, je voudrais soulever par rapport aux tests pratiques. Ici, j'ai un exemple que je peux donner dans une entreprise locale ici qui se sait. Il y a un ami qui était chauffeur. Un opérateur, oui, des engins lourds et consorts. Bon, un autre jour, on l'avait soumis à un test parce que la sous-traitante de laquelle il était en train de travailler avait fermé, il fallait qu'il puisse passer d'autres tests dans une autre entreprise. Maintenant, comme il était habitué à conduire le Land Cruiser, ce jour-là, le Land Cruiser n'était pas là sur place. Il fallait lui soumettre à un Hilux, Hilux Surf, pour qu'il puisse passer ses tests là-bas. Bon, ne maîtrisant pas bien cet engin-là, il s'était quand même hasardé parce que c'était l'opportunité pour lui ce jour-là de passer ce test. Mais en hasardant, en tout cas, juste voir la boîte de ces véhicules-là, déjà il a paniqué. Il a paniqué, il ne pouvait rien faire. Alors que ses amis qui étaient là...
C'était un véhicule Hilux automatique, c'est ça?
Oui, automatique.
Ah,
oui.
Lui, il est habitué au véhicule manuel, la Land Cruiser, ok, je comprends.
Alors, il a paniqué. Bon, les amis avec qui ils étaient là, ils l'ont demandé que non, mais en tout cas, on a senti à lui-même qu'il était en train de frissonner là. Il s'est en tout cas, là, il voyait déjà l'échec en lui. Alors, je voudrais pas quand même poser la question à l'invité. Est-ce que dans ces cas pareils, l'homme va soumis au test, il peut demander une mesure de clémence? Soit disant qu'il peut s'excuser sous prétexte qu'il est peut-être malade, il peut revenir passer ses derniers tests à un autre jour.
Baudouin, parce que au-delà de cette panique, c'est un bon chauffeur, il connaît le volant, il connaît conduire.
Il connaît très bien conduire. Mais est-ce que je vous donne ici, il avait échoué peut-être là grâce à cette panique-là.
Merci beaucoup.
Alors, je voudrais un peu que l'invité puisse nous aider si c'est faisable que quelqu'un, s'il ne se sent pas bien ce jour-là, qu'on puisse lui donner l'occasion d'organiser une journée pour lui, spécialement pour quand même qu'il puisse se rattraper, au lieu de le laisser dans la panique et perdre l'emploi. Il a déjà perdu son emploi, alors que c'est un très bon chauffeur qui a été apprécié par tout le monde.
Merci beaucoup, Baudouin. Je rappelle que c'est depuis Kasumbalesa que vous intervenez. Et comment répondez-vous à nos auditeurs, Monsieur David?
Ok, donc je prends d'abord la première question liée à l'alcool. En principe, mais il faut savoir c'est quoi l'alcool et quelle et l'alcool joue quel effet dans le niveau du cerveau? Alors, vous savez que l'être humain a ce qu'on appelle les systèmes cérébrales. Le système cérébral est composé de trois grandes parties. Vous avez le cerveau gauche, l'hémisphère droit, et vous avez les cervelets. L'alcool, lorsqu'il pénètre au niveau du système cérébral, l'alcool va toucher ce qu'on appelle les cervelets. Les cervelets, c'est la petite membrane qui relie les deux cerveaux et qui rattache les cerveaux avec la moelle épinière. Donc, c'est juste au niveau du cou. Alors, il se fait que lorsque l'alcool arrive à ces niveaux, l'être humain, il est déséquilibré. Les recherches ont démontré que quand vous voyez une personne brétiller, marcher en clopant, ça signifie qu'il avait bu et que l'alcool a touché, est allé déséquilibrer les systèmes.
Ça produit les effets.
Les cervelets, effectivement, ils perdent l'équilibre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que l'alcool est en mesure, au niveau maintenant des deux hémisphères, parce que c'est l'hémisphère droit qui est beaucoup plus pour des conceptions sensibles, abstraites. On pourra situer, n'est-ce pas, peut-être l'intelligence à ce niveau, bien que l'autre hémisphère gauche agit, parce que l'hémisphère gauche est spécialisé plus dans le langage, parler également, dans la production verbale. Et donc, il se fait que, à ce niveau-là, la personne peut constater une certaine diminution de la tonicité intellectuelle. Donc, la capacité d'avancer la réflexion plus haut. Or, les tests, le plus souvent, vous amènent à avoir le maximum, n'est-ce pas, de faire tourner votre cerveau à plusieurs vitesses de rotation. Donc, vous comprenez? Donc, l'alcool n'est pas un adjuvant. C'est en fait une substance qui ralentit le processus, n'est-ce pas, cognitif, et ce n'est pas bien indiqué. Moi, je vous conseillerais pas à ça. Une façon, de vous maîtriser si vous voulez surmonter le stress, c'est, vous pouvez faire des exercices de yoga. Malheureusement, ici, yoga est mal toujours perçu. Alors que ce sont des exercices.
Par exemple, l'activité physique la veille, les sports le matin avant d'y aller.
Les sports le matin, prendre de l'eau, voilà. Rester, sortir de la maison, expirer, respirer.
Détendez-vous.
Ouais. Faites la rotation de la parcelle. Vous allez, vous faites 2-3 allées, revenir, etc. Donc, vous allez surmonter les stress. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des verres d'eau pour surmonter les stress et affronter les tests. Bien au contraire, vous allez vous engouffrer parce que si on vous soumet à des tests qui demandent des niveaux de réflexion très avancés, et les tests, l'alcool vient ralentir le processus cognitif. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ce n'est pas une bonne indication. Et c'est là où on vous conseille de faire des exercices de relaxation. Alors, en ce qui concerne la tonalité, si elle peut constituer, n'est-ce pas, un facteur. D'abord, il faut faire la part des choses. Et souvent, la tonalité peut constituer un biais dans le recrutement, surtout lorsque le recrutement s'est fait avec une bonne dose de tribalité ou de discrimination sociale.
Oui, ça dépend aussi du métier.
Ça dépend aussi du métier.
Oui.
Il y a des métiers où la tonalité, c'est un critère exigeant. Par exemple, le métier où nous sommes ici, les journalistes, il faut avoir une bonne tonalité. Le métier d'enseignant, puisqu'on a soulevé qu'il y a un processus d'apprentissage permanent en termes d'interaction qui se passe entre l'enseignant et les élèves, et que tout ce que l'enseignant produit, vous savez, à cet âge-là, les élèves agissent par imitation, le mécanisme d'imitation et de simulation. Alors donc, à cet âge-là aussi, c'est-à-dire que pour, par exemple, ce type de métier-là, c'est très dangereux. Si vous avez quelqu'un qui a des difficultés de prononciation, de mots, qu'il puisse enseigner des élèves, de peur qu'il puisse, n'est-ce pas, leur transmettre, ces insuffisances. Mais également, il faut voir, mais il s'agit de quel niveau? S'agit-il de l'école primaire ou de l'école secondaire? Parce que déjà, l'école primaire, les enfants sont au stade d'imitation.
Mais ça dépend aussi de région. Il a dit que l'enseignant, il était kassaïen et il avait une certaine tonalité kassaïenne dans sa manière de parler. Et voilà, donc ça dépend aussi de région.
C'est là que je voulais revenir. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la tonalité avec certaines maladies de langage. Parce qu'effectivement, il y a des maladies de langage. Par exemple, des gens qui ont l'habitude de zizoyer. Ça, c'est effectivement un problème. C'est-à-dire que quand vous prenez une personne qui souffre, n'est-ce pas, de problèmes de prononciation de mots, parce que le larynx a un problème, etc., ou sa langue a un problème, etc., là, c'est un cas d'anomalie, n'est-ce pas, au niveau du langage, d'apprentissage du langage, qui peuvent être transmises au niveau des enfants, parce que les enfants, comme à l'école primaire, ils sont soumis dans le processus, dans les mécanismes d'apprentissage.
L'acquisition des connaissances de base.
Mais lorsqu'on est au niveau, par exemple, de l'école secondaire, où les enfants, n'est-ce pas, ont la capacité de sélectionner, ils ont déjà une compétence linguistique bien affinée, là, les problèmes ne peuvent pas se poser. Mais aussi, il faut faire attention, n'est-ce pas, aussi, avec cette tonalité, de tomber dans la discrimination. Par exemple, d'emblée, on pourra dire qu'il y a un problème de discrimination sociale. Qui peut, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, un contentieux juridique, ça, c'est très dangereux.
Oui.
Donc, il faut vraiment faire attention lorsque vous voulez juger les gens par rapport à leur tonalité. Et puis aussi, il faut analyser les contextes, il faut analyser les types de métiers aussi. Par exemple, à l'enseignement, une personne, même à l'école secondaire, qui n'est-ce pas, se laisse emporter de manière inconsciente d'ailleurs par la tonalité de sa langue. Et là, ce n'est pas une maladie, ça. D'ailleurs, la personne peut s'améliorer, question de lui donner un peu du temps. Et de toute façon, si la personne est soumise dans un contexte où tout le monde parle correctement, vous allez voir que c'est...
Elle finira par
Allez-y, par exemple, en Afrique de l'Ouest. C'est sous nous ici qui parlons un bon français. Mais si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous sentez vraiment qu'il y a des emprunts, n'est-ce pas, culturels.
Oui, mais les contenus, les bons, il y a la tonalité qui...
Mais j'inviterai, par exemple, les gens d'aller, par exemple, suivre, il y a une série, n'est-ce pas, de vidéos sur le procès de 28 novembre à Guinée qu'on a créé. Allez suivre et entendez des grandes personnalités, la manière dont ils parlent. Vous allez sentir, effectivement, c'est comme si nous sommes dans la forêt. Mais on est en Afrique, et puis, effectivement, ce sont des villes modernes où des gens vont à l'université, etc., comme nous. Mais quand nous parlons, vous sentez comme si nous dissocions de notre... Mais également, il y a certaines langues, nos langues, nos dialectes, qui ont une certaine influence sur la manière de parler. Mais nous devons, je pense que nous devons nous...
Il
faut aller au-delà, effectivement. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, de tourner autour de la tonalité pour que ça ne donne pas lieu à une discrimination sociale. Mais aussi, lorsqu'on parle, la liste de tests... comme l'a dit notre ami. Bon, vous avez, par exemple, dans les aptitudes verbales, il y a la maîtrise des mots, il y a des vocabulaires, il y a des expressions qu'il faut maîtriser. Dans le numérique, il y a des opérations fondamentales qu'on peut utiliser, il y a des équations, il y a des petits problèmes qu'on peut vous soumettre, etc. Mais aussi, vous avez dans les formes géométriques, il y a les matrix, plusieurs formes. Mais ce qui est important dans tous ces psychotechniques, il faut suivre la logique. Il y a un principe directeur. Un bon test psychotechnique donne toujours un exemple. On donne un exemple pour chaque cas. On dit voilà les tests et les composantes, par exemple numériques. On donne un exemple. Et en réalité, ce que vous devez faire, c'est de lire l'exemple et de voir la réponse et de voir quel est le principe qui a été utilisé pour faire sortir la réponse. C'est ces principes-là qu'il faut dénicher. Dès que vous les dénichez, vous allez l'implémenter dans les différentes données et vous verrez que les données, les réponses vont sortir d'elles-mêmes.
Revenez sur le cas professeur de Baudouin Fataki, le cas qu'il a évoqué d'un conducteur qui a connu une panique parce que il était en face d'un véhicule électronique alors que lui, il est habitué au véhicule manuel.
Cette question doit être vue sous deux aspects. Premier aspect, c'est ça concerne les candidats. C'est-à-dire que les candidats, comme nous avons dit, quand vous savez que vous allez passer les tests, prenez tout votre temps de vous préparer. La préparation s'est faite et sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous devez, même sur le plan physique, vous devez surmonter les stress. Faites des exercices qui vont vous permettre à ce que vous soyez à l'aise quand vous êtes devant les évaluateurs ou devant les dispositifs d'évaluation. Deuxièmement, c'est que du côté de l'expert ou des évaluateurs, c'est pourquoi le recrutement, c'est un processus séquentiel. Il y a plusieurs séquences et plusieurs étapes. C'est pourquoi on peut mettre plusieurs tests. Il y a des tests d'abord écrits, il y a des tests pratiques, il y a également des interviews. Tout ceci, c'est pour permettre à ce que les candidats, l'évaluateur puisse savoir auprès du candidat quels sont les aspects importants et quels sont les aspects les moins importants et sur quoi il est fort et comment raffiner les résultats. Vous verrez par exemple une personne qui va réussir brillamment au test écrit, n'est-ce pas, mécanique ou de conduite. Mais lorsqu'il vient dans la pratique, il échoue. Tout comme vous verrez également une personne qui il fait preuve de vraiment de la brillance au niveau des pratiques. Mais quand vous les soumettez au test, ses écrits, ou vous les recevez à l'interview, il est paniqué. Et donc, c'est les recruteurs qui doivent savoir maintenant analyser les comportements, n'est-ce pas, de la personne, pour dire que dans ce contexte ici, la personne, on appelle ça artefact. Artefact, c'est quoi? C'est un facteur résiduel ou inhabituel qui vient s'insérer sur un comportement naturel. Par exemple, une personne qui, naturellement, il est compétent, mais lorsqu'il passe les tests, l'environnement, comme vous avez dit, déjà, la machine, etc., automatique, etc., quand il voit ça, ou l'environnement, ou également, on dit en psychologie, la notion de la coprésence avec Zajong, la présence d'autrui à côté est toujours source de tension et de stress et peut perturber la performance. Ce qui veut dire que les recruteurs doivent être censés savoir que le test, c'est une situation embarrassante qui peut mettre mal à l'aise les candidats et observer avec netteté les comportements. Parce que les résultats au test, c'est un comportement.
Oui.
Lorsqu'on donc on analyse un comportement ou les résultats à un test, on doit faire attention sur certaines variables perturbatrice, ce qu'on appelle les artefacts, pour savoir dans le résultat, qu'est-ce qui a été lié à la performance naturelle et qu'est-ce qui a été lié à des éléments résiduels ou perturbatrices ou des éléments perturbateurs qu'il faut à tout prix identifier et isoler. C'est dans ces cas-là, si le recruteur il est attentif, il comprendra que cette personne a de la maîtrise, sauf que il a été paniqué, donc il faut lui donner des occasions, d'autres occasions pour qu'il puisse, n'est-ce pas? C'est ainsi que les recruteurs doivent être des psychologues. S'ils ne sont pas des psychologues, ils doivent être formés en psychotechnique. Comment vous pouvez passer les tests psychotechniques et vous ignorer les contenus et que vous ignorez, n'est-ce pas, la quintessence? C'est pas possible. Et l'être humain qui est devant vous, lorsque vous les soumettez à un test, il est soumis dans une situation de stress. Il y a le stress permanent, n'est-ce pas, qui fait en sorte que la personne qui est en train de s'exercer, s'il n'a pas la maîtrise de soi, qu'il soit perdu ou pas. Donc, il faut vraiment que ces gens ou les recruteurs qu'ils soient attentifs pour savoir identifier et isoler les variables qui sont combinées, qui donnent lieu à une performance liée à un test.
Nous retournons au standard. Comment bien se préparer pour un test d'embauche? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Par SMS, vos questions sont bienvenues au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Nous allons cette fois-ci à Kikwit pour donner la parole à M. Godet. Bonjour.
Bonne année. Oui, je voulais demander à l'invité aussi bonjour et bonne année, merci à l'invité.
Merci
vraiment, la mathématique du jour vraiment est très impertinente. Vraiment, je voulais savoir d'abord.
Oui, allez-y.
Est-ce que les techniciens qui s'organisent des tests, ils ont, donc de la majorité à la ville d'Egypte, ici j'ai un témoignage, la majorité des techniciens ont une partie prise. Je ne sais pas si on organise une test quelque part, mais vous voyez sur 50 personnes ou 20 personnes, les gens qui récitent, ce sont les gens qui ont des connaissances avec les techniciens. Je ne sais pas. Il y a un monsieur aussi comme témoignage. Il fait le test. Quand il fait le test, il va prendre un alcool. Quand il prend l'alcool, il travaille bien par rapport. Il ne prend pas l'alcool et il travaille donc des bizarres. Je ne sais pas si l'invité peut me dire. ne travaille pas bien, il n'exprime pas le français bien. Quand il prend un peu d'alcool, il exprime bien. Est-ce que l'invité peut nous dire? Ça, c'est quel phénomène? Dédé, est-ce que l'alcool opprime aussi, donc ça surménage donc l'intelligence d'une personne? Est-ce que aussi l'alcool peut changer la sonorisation des sons, des voix d'une personne? Voilà, l'invité peut nous dire, puisque beaucoup de gens travaillent à l'aide d'un drogue ou à l'aide d'une chambre. Quand il prend du chambre, il fait un test bien, il rédige. Mais quand il n'a pas donc drogué, il ne fait pas bien. Je ne sais pas, l'invité peut nous répondre. Est-ce qu'il y a l'impact entre les drogues et l'intelligence de l'homme? Voilà, je m'arrête par là. C'est Godet depuis la ville de Kitou.
Merci beaucoup, monsieur Godet. L'invité avait déjà souligné que l'alcool est déconseillé, mais rien n'empêche qu'il revienne sur les aspects que tu as évoqués. Il aura le temps de revenir sur ta préoccupation. Cette fois-ci, allons à Kolwezi. À Kolwezi, pour donner la parole à Claudia, à qui nous disons bonjour.
Invité. C'est toujours un plaisir pour nous de participer à notre mission. Vous me recevez?
Oui, allez-y, allez-y, nous vous écoutons.
Ok. Je voulais savoir si, lors des tests, on procède aussi à apaiser la loyauté et aussi l'honnêteté, parce que vous savez, de nos jours, dans notre société, l'excellence est devenue une denrée rare. Si on peut aussi procéder à apaiser la loyauté, cela nous permettrait aussi à réduire un peu les vols, la tricherie, la malhonnêteté et tout ça. Et je voulais savoir si le fait de s'habituer à prendre la parole en public peut aussi contribuer à une réussite lors d'un test. Une autre préoccupation concerne les personnes qui corrompent eux-mêmes des recruteurs pour avoir de l'emploi. Parce que vous savez, quand on cherche de l'emploi, on est prêt à tout. On a fait beaucoup de temps au chômage, et qu'on se trouve vraiment face à un test, là, on est capable de tout. Il y a certaines personnes qui mettent même leur vie en danger, tout en sachant que son état de santé ne lui permet pas d'exercer certains métiers. Bon, par exemple, concernant l'aptitude physique, on a besoin d'une personne qui pèse, je ne sais pas, 70 kilos, mais la personne sait qu'elle a moins de 70 kilos, mais toutefois, elle corrompt les recruteurs pour avoir de l'emploi, tout en mettant sa santé en danger. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour lutter contre ça? Mais toutefois, le stress et la panique, ça c'est vraiment automatique. On peut comprendre que certaines personnes, quand elles ont à faire les tests pour la première fois de leur vie, elles paniquent. Mais toutefois, il y a d'autres personnes. Quand bien même, elle a déjà travaillé dans d'autres entreprises pendant plusieurs années, mais une fois devant un test, elle panique toujours. C'est pourquoi.
Merci beaucoup, Claudia. Merci. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kolwezi que vous intervenez. La réalisation me signale qu'il y a Donatien, qui est à Kasumbalesa. Donatien, c'est plutôt Baudouin. C'est plutôt Baudouin, oui, qui est à Kasumbalesa. Baudouin, à vous la parole. Malheureusement, Donatien, on me dit que c'est Donatien qui est au standard. Donatien, vous êtes à Kasumbalesa, à vous la parole, allez-y, on vous donne la parole. Malheureusement, la liaison nous a trahis. Comment répondez-vous à nos deux auditeurs, Godet de Kikwit qui est revenu sur l'alcool et Claudia qui a fait allusion à la panique, au stress, même si on est habitué à passer des concours d'embauche?
D'abord, ce qu'il faut reconnaître, savoir que l'alcool c'est une sorte de drogue. Quand vous avez, vous trouvez une personne qui vient vous évaluer, il a pris des drogues, il faut le traiter en justice. S'il s'agit effectivement d'un candidat, il faut, par exemple, moi, si je suis recruteur et que je me retrouve devant un candidat qui a pris des drogues, je vais déjà les déclasser parce que il n'est pas naturel. Et puis, c'est une personne qui est capable d'aller au-delà s'il est recruté. Donc, oui. C'est déjà un mauvais élément. N'osez pas le faire parce que si vous avez la malchance d'être devant de bons recruteurs, ils vont vous éliminer. Ça, c'est un de deux. Je répète encore une fois de plus. L'alcool diminue les capacités cognitives, c'est-à-dire la force intellectuelle. Donc, il faut éviter. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas des paniques, des stress? Parce que c'est à quoi les gens justifient pour prendre de l'alcool. Il faut faire des exercices de relaxation. Relaxation, ça signifie faire des petits exercices physiques, prendre de l'eau le matin, respirer, inspirer, respirer, etc. vous allez voir que vous allez améliorer, n'est-ce pas, votre état d'être physique. Mais aussi marcher. Il faut marcher, par exemple, le week-end, vous allez marcher. Ça va vous permettre d'améliorer votre système, n'est-ce pas, de circulation, de sang, ce qui va renforcer également votre maîtrise de soi. Mais aussi, il y a effectivement des tests de loyauté, des tests d'honnêteté. Par exemple, beaucoup de candidats ne le savent pas. On peut vous soumettre un test et vous n'allez pas faire attention. Par exemple, on vous dit de dessiner, de faire un dessin d'arbre avec les yeux fermés. Ou de dessiner une personne avec les yeux fermés. Ou une maison avec des yeux fermés. Bon, je ne vais pas révéler ici parce que c'est un secret. La manière dont vous allez, votre performance, donc le résultat que vous allez produire, traduira votre niveau d'état, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez de faire quelque chose avec les yeux fermés? Vous imaginez?
Difficile. Je ne saurais pas de bien dessiner.
La personne qui dessine bien, c'est que?
C'est qu'il est, elle est excellente.
Non?
Je ne sais pas.
Il a fait ça avec les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il n'a pas été honnête.
Ah, d'accord.
Donc, il y a des pièges comme
oui,
ça.
Claudia a voulu aussi savoir l'effet de prendre la parole en public. Est-ce que c'est avantageux pour des tests d'embauche? Pour quelqu'un qui...
Beaucoup plus. Mm. Bon, d'abord, quand vous prenez la parole en public, ça vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir casser la barrière entre vous et l'environnement social.
Oui.
Ça, c'est donc de surmonter les stress, de broyer la panique. Et en même temps, beaucoup plus ça va vous servir au niveau des interviews. Parce que les tests, vous n'êtes pas en face d'une personne, vous êtes en face d'un document, n'est-ce pas, ou d'une machine. Mais c'est la prise à parole en public vous servira plus pour au niveau des interviews. Quand vous serez devant les intervieweurs ou les recruteurs, vous allez vous sentir plus à l'aise parce que vous êtes habitué à affronter le public, c'est-à-dire à combattre l'agoraphobie, la peur du public. Et puis aussi, les candidats corrupteurs.
Oui, Godet est revenu sur ça. Il y a des candidats qui se permettent de corrompre les agents recruteurs.
Ce n'est pas une bonne chose parce que si vous corrompez, vous arrivez à corrompre les recruteurs, le risque serait qu'il va, s'il vous retient, d'abord, un, vous ne méritez pas. De deux, vous risquerez d'être inapte, d'avoir des difficultés de vous adapter
au poste.
Ouais. Et du coup, on va vite comprendre que vous êtes incompétent, vous n'avez pas beaucoup plus de chances de faire long fait dans cette entreprise-là. Mais aussi faites attention, parce que aujourd'hui, nous avons aussi des escrocs. Si vous avez l'aptitude, la facilité à corrompre, un jour, vous allez tomber entre...
Oui, mais il faut aussi se poser des questions. Est-ce que ces genres de pratiques dans des entreprises sérieuses existent? Je serais tenté de dire non.
Pourquoi non? Mais si déjà les candidats qui sont témoins oculaires...
Qui témoignent...
Donc, il faut prendre ça en compte. Ça existe. Ça existe parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme il y a la médiocrité qui bat son plein, c'est que beaucoup, effectivement, des recruteurs se donnent à certaines pratiques comme celle-là, mais qui ne sont pas des pratiques à encourager. Moi, je vous encourage, quand vous saisissez, par exemple, un recruteur qui demande de l'argent,
Il faut le dénoncer
en justice. Vous pouvez le traduire en justice, par exemple. Et puis, je vous informe aussi que on ne cherche pas l'emploi avec l'argent. Quelqu'un qui s'approche de vous pour vous dire que voilà, il y a telle opportunité, il faut donner de l'argent, dites-vous que c'est un escroc. Ou si ce n'est pas un escroc, c'est parce qu'il y a aussi de la maladie. Si on vous conditionne, par exemple, de sortir avec la personne, vous imaginez si la personne est malade. Donc, vous allez avoir un emploi. Donc, c'est une réjouissance à court terme.
Oui.
N'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien. Vous allez avoir un emploi aussi. Aussitôt, vous allez tomber malade. Et puis, vous allez partir. C'est pas bon, ça. Donc, il faut faire attention avec. Donc, c'est pourquoi. Donc, quand vous cherchez un emploi, préparez-vous en conséquence. Et donnez le meilleur de vous-même.
Et dans certaines entreprises aussi, on signale déjà les valeurs cardinales de l'entreprise. Par exemple, l'honnêteté, il faut toujours se référer à toutes ces conditions-là préétablies avant d'aller passer le concours.
Évidemment, donc ce sont des chapelets de bonnes intentions. Mais les gens ont toujours du mal à mettre en pratique les bons usages, vous savez. Et donc, nous vous encourageons, dans des cas pareils, il faut dénoncer. Il faut dénoncer et puis... nos amis corrupteurs qui vont chercher à aller corrompre. Vous avez beaucoup de risques. Vous allez perdre de l'argent, vous allez contracter des maladies, etc., etc. Donc, faut faire attention là où vous allez. Cherchez à mériter votre poste. Ça vous donne une assurance de soi et ça renforce votre personnalité.
Nous allons à Bounia donner la parole à monsieur Didier, Jean Didier. Jean Didier, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, je vous, le journaliste et à l'invité.
À vous la parole, allez-y rapidement, on est coincé par les temps.
Merci bien fait. J'ai commencé à suivre l'émission depuis son début. J'ai beaucoup aimé un peu les interventions des uns et des autres, et surtout l'orientation de l'invité. Je voudrais quand même revenir un peu sur l'aspect des recrutements dans le cadre de l'enseignement. J'apprécie ce qu'il a dit. Je voudrais tout simplement donner un apport ou bien partager une expérience. Quand on doit, par exemple, recruter au niveau élémentaire, de l'école primaire, notamment de l'école primaire là-bas, là, évidemment, tous les aspects soulignés doivent être pris en compte. L'écriture, la tonalité, ainsi de suite, parce que l'interférence linguistique est aussi là, c'est qu'on ne peut pas combattre en un seul jour. Mais du moins, au-delà de ça, une autre petite expérience, une autre petite blague que je voulais partager. Il y a à une certaine époque, un enseignant qui était boiteux. Je crois que l'invité va accepter avec nous qu'actuellement, normalement, il boiteux ne peut pas être enseignant. Et voilà, pendant le défilé matinal, avant d'entrer en classe, l'enseignant est là, comme il était boiteux, avec un pied court par rapport à l'autre, tout en train de marcher, puis il dit, marchez comme moi, voilà. Tous les enfants commençaient à marcher à propinant, et après l'enseignant se fâche. Donc, tout simplement, après, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit tenir quand même compte des domaines lorsqu'on recrute, la tonalité, l'écriture et ainsi de suite. Je parle ainsi parce que je suis un enseignant. Ce sont des aspects qui doivent quand même être mis en compte lorsqu'on recrute dans le domaine de l'enseignement. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Jean Didier. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Rapidement, professeur David, on est les temps impartial mission, c'est graine vite là.
Ok, effectivement, nous l'avions dit, donc au niveau de l'école primaire, nous avons insisté sur la tonalité également, parce que comme nous avons dit, au niveau de l'école primaire, les enfants agissent par le mécanisme d'imitation, le mécanisme d'assimilation et de simulation. C'est ce que nous avons dit, mais pour un enseignant qui est boiteux, moi j'ai fait la pédagogie à l'école secondaire, on ne m'a pas dit... Il n'y a aucun principe pédagogique qui interdit à quelqu'un qui
a une infirmité,
de ne
pas être enseignant.
En fait, ça, c'est la charge même de l'école. C'est l'école qui doit préparer les élèves à accepter les enseignants qui ont une certaine infirmité. Qu'est-ce que l'école demande à l'école primaire? L'école demande, insiste sur les aptitudes. Des aptitudes mentales, pas des aptitudes physiques. On ne cherche pas à recruter les maçons. Un enseignant n'est pas un maçon. Un enseignant, c'est quelqu'un qui utilise, qui fait recours à ses capacités cognitives. C'est sur quoi il faut insister et préparer mentalement, psychologiquement les élèves pour accepter leur enseignant, etc. Donc il faut simplement accompagner cet enseignant et les élèves.
Merci beaucoup, professeur David. Nous rappelons que vous êtes expert en organisation du travail et management et des compétences et directeur général des RACIWA. Merci d'avoir
été
avec nous.
Remercie.
À la prochaine occasion.
Merci beaucoup.
C'est par ici que nous clôturons au Capi Service que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Priscille Kabouya était à la prise des sons et Julien Nyangassa s'est occupé de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute des programmes de Radio Capi.